Au KPS, du lundi au vendredi, de 9h à 10h heure de Kinshasa, avec Nicole Ngaka et JR Mingemi.
Ahora mudawa, bati paka nisote, mwa paka kati, kitu kwa hapa. Tuzubika haka na babuwae muke muke, ama famiye, ndengi baza kuhidengi su, mwa ndengi wana, anto ke zalensi shiza, zalensi shiza, izo kukate, mwa tukai suboni.
En province, on entend plus de 40 personnes vivant avec VIH-SIDA et internées à l'hôpital général de Bouta, cité situé à 324 km au nord de Kisangani, ne reçoit plus depuis le mois d'août dernier des anti-retroviraux. Mais pourtant, à leur disposition par le programme multisectoriel de lutte contre le SIDA et la coopération humaine allemande GTZ. Pourquoi ce constat? Nous allons faire le point dans un instant avec nos invités. C'est l'occasion, mesdames et messieurs, de réagir au 081-070-2050. Au Kasaï oriental, la situation des salariés de la société minière de Bakwanga, Miba, devient jour après jour préoccupante. Selon le vice-président de la délégation syndicale générale de la Miba, les travailleurs accusent un retard de paiement de salaire de plus de 6 mois. La délégation syndicale générale affirme que toutes les démarches effectuées auprès de l'employeur sont restées vaines. Que faire alors? Les réponses sont doutes avec nos invités, puisque tout à l'heure on va en parler. Vous pouvez également participer toujours au 081-070-2050. Et nous avons déjà en ligne Emmanuel et la mairie. Hein. Emmanuel, vous avez suivi ce dossier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les salariés de la MIBA sont-ils restés impayés depuis 6 mois?
Oui, Nicole Ngaka, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Le pourquoi, je ne saurais pas moi le dire, mais j'ai posé la question aux dirigeants de la MIBA. Ils ont donné leur réponse que nous allons découvrir à travers cette émission.
À tout à l'heure, alors.
Il n'y a pas vraiment d'archives dans nos communes. Hein. La façon dont ils ont d'abord déclaré, ce sont des vieux créateurs, c'est un peu archaïque et c'est comme si on était à l'époque des indépendances.
Nous sommes là à Kinshasa où nous apprenons que les maisons communales de Kinshasa et de Barongo ont été complètement saccagées lors des derniers événements malheureux survenus dans la capitale. Les documents administratifs tels que les attestations de naissance, les actes de mariage, les déclarations de décès, les actes de divorce et autres ont été emportés par les flammes. À ce jour, est-il possible de retrouver les traces de ces documents perdus? Quel est le système d'archivage utilisé dans nos différentes maisons communales et ailleurs à travers le pays? Nous allons aujourd'hui le savoir puisque nous aurons des spécialistes qui viendront répondre à ces questions. Vous pouvez également poser vos questions toujours au 081-070-2050. Et pour cela, qui nous suivent sur Internet, écrivez-nous à action@radiocapi.net. Alors, quels sont les autres sujets que nous allons développer ici à Bandundu dans le Corée?
Nicole, à Bandunduville, la radio Concorde de Bandundu, avec Désiré Tapouli, nous propose un sujet sur l'occupation anarchique des terrains. Il faut savoir que depuis quelques mois, plusieurs sites font l'objet d'occupations anarchiques. Il s'agit notamment des espaces situés dans les environs de la concession des Sept Congos et aussi le long de la rivière Kwango et sur la route d'Imalumbu. Fekei Mathieu, conservateur des sites intensifs à Bandundu, viendra peut-être nous donner un peu plus de détails. Et comme je l'ai dit, ce sera Désiré Tapouli de Radio Concorde de Bandundu qui nous fera le point. Et au cours de cette émission, nous nous rendrons également au Katanga pour parler des origines des conflits ethniques en République démocratique du Congo. Comme on le sait, on peut se le rappeler, au début des années 90, le Katanga a connu une période sombre, selon les sources, entre 200 000 les 400 000 Congolais d'origine catalane ont dû quitter la province en abandonnant tous leurs biens pour y gagner le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. On a expliqué que deux communautés qui cohabitaient depuis des dizaines d'années en viennent à des telles extrémités. Ces communautés peuvent-elles vivre ensemble 10 ans plus tard et quels sont les signes de réconciliation? Donc nous allons faire le point avec Dolantine Rouge et nous aurons comme invité, en tout cas exceptionnellement pour aujourd'hui, et je crois que les auditeurs vont découvrir, le démarrage d'une nouvelle série d'émissions avec l'ONG La Bénévolencia Nicole.
Voilà, alors rendez-vous pris dans un instant avec tous nos invités, hein, pour ceux-là qui aimeraient nous appeler pour poser déjà leurs questions, et qui est déjà maintenant. À la mise en onde, Jean-Noël Mokondo, à la réalisation jeudi Kachama, cette émission est coordonnée par Marcel Ngombo. Bon début de semaine, et surtout bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le pays.
Au Capierre, Nicole Gata et J.R. Lumumba.
Nous apprenons qu'en province orientale, plus de 40 personnes vivant avec le VIH-SIDA sont internées à l'hôpital général de Bouta, cité situé à 324 km au nord de Kisangani. Et ces personnes ne reçoivent plus depuis le mois d'août dernier des antirétroviraux. Et pourtant, nous savons qu'on a mis à leur disposition par le programme multisectoriel de lutte contre le sida et la coopération allemande GTSZ des antirétroviraux. Mais pourtant, nous apprenons que selon le médecin, un chef de zone de santé de Bouta, ces malades ne sont plus à même de supporter les médicaments pour deux raisons. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont ces raisons évoquées par les spécialistes? Certainement que nous aurons des détails avec nos invités tout à l'heure. On aura deux invités dans cette émission pour ce sujet. Vous pouvez déjà poser vos questions, vous qui nous suivez à Bouta grâce à la radio partenaire Roubi, qui est partenaire justement à Radio Tapi. Nous avons déjà en ligne notre confrère, Anselme Mansois. Anselme, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel est l'état actuel de ces personnes vivant avec le VIH-SIDA internées à l'hôpital général de référence de Bouta?
Bonjour d'abord Nicole Data et bonjour à tous nos auditeurs, particulièrement ceux de Radio Roubi à Bouta. Notez d'abord qu'ils sont environ une centaine internés à l'hôpital général de Bouta et dans quelques centres de santé de la cité de Bouta. Ils sont tous en train de suivre gratuitement les traitements grâce aux médicaments disponibles à l'hôpital général fournis par la coopération allemande et le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Mais une quarantaine parmi eux présente un état de malnutrition sévère. En dehors des traitements contre les infections opportunistes, ils ne reçoivent pas les antirétroviraux, voulais-je dire, donc ces 40-là. Certains n'arrivent même pas à marcher et se sentent abandonnés par leur famille et par l'État congolais. L'un d'eux s'exprime, suivant lui.
En tout cas, pour les très difficile, pour y a vraiment, la évité, ce qui est dans l'injustice, ce qui est dans l'ini, bon, à on a bout à oua, bah, qui paradis sauté, bon, à part la justice, c'est bien qu'il va pas. Mais à part qui, si, le reste, c'est tout bon, qui soit un autre thème là, qui, pour nous faire, il faut aller à bien, à la bonne santé, ni si qu'on fait qui c'est sa place. Pour vous, bizarre, quand on a moi, mouke, à ma famille, n'est-ce pas, pour aider, ni so, bon, n'est-ce pas, en tout cas,
Alors, comment expliquer que ces malades ne reçoivent pas ces ARV, antirétroviraux, alors qu'ils sont disponibles, hein, en tant que GTZ et donc la coopération allemande, ainsi que le programme multisectoriel de lutte contre le sida, a mis ces antirétroviraux à leur disposition? Alors, comment expliquer que cela ne soit pas en quantité suffisante à l'hôpital général de Bouta?
Nicole n'a qu'à une précision, c'est-à-dire que les antirétroviraux sont en quantité suffisante dans cet hôpital général de Bouta. Mais pour les médecins chefs de zone de santé de Bouta, deux raisons majeures font que ces malades ne reçoivent pas ces antirétroviraux, suivant le docteur devenu à Palata.
Alors, la prise en charge nutritionnelle dans les autres ici, par exemple à Kisangani, à la province, elle est prise en charge par les ONG de la lutte qui sont financées par les PNLS, PAM, etc. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de PAM, les ONG, il y en a, le PNMRS également, mais on n'a pas encore ici un financement dans le sens de la prise en charge nutritionnelle. Nous avons actuellement 42 malades, leur nombre de ces détails est sensiblement abaissé, mais que nous ne savons pas les mettre sous les traitements qui est par ailleurs gratuit, parce que ce sont des malades qui sont déjà à l'état de dépression avancée et qui ont déjà maigri, ils ont perdu facilement le poids. Donc on ne peut pas les mettre sous traitement comme ça parce qu'ils ne peuvent pas supporter le traitement. Mais parmi ceux qui ne sont pas encore mis sous traitement ARV, nous en avons déjà perdu 8.
Les médicaments sont là, malheureusement ils ne peuvent pas mettre ces médicaments à la disposition de toutes ces personnes hein, qui ont besoin des antirétroviraux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de prise en charge nutritionnelle de ces personnes vivant avec le VIH-Sida jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il n'y a pas de bureau du programme national de lutte contre le Sida là-bas à Bogota pour s'occuper de cette prise en charge nutritionnelle en fait?
Nicole, avant de répondre à votre question, je voulais que le docteur poursuive pour la deuxième raison qui fait que ces malades ne reçoivent pas les antirétroviraux, notamment le problème de l'appareil Diana qui permet justement aux médecins de doser la capacité des globules blancs à combattre les infections. Mais pour revenir à votre question, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida est bel et bien présent à Bogota, selon son coordonnateur. La tête de district, étant donné que cette responsabilité de prise en charge nutritionnelle ne lui revient pas pour le moment, il avait initié, c'est-à-dire le coordonnateur du PNMRS, Bout avait initié une rencontre avec les ONG et les communautés locales pour tenter de résoudre cette question. Écoutons à cet effet Dr David Ditalala, coordonnateur PNMRS, district du Bas-Uele.
Contre PNMLS, les PAS qui faire quelque chose, il y a également la communauté, parce qu'il ne faut pas oublier cette affaire. Hein. C'est-à-dire que PNMLS fait des leaderships de la lutte, mais ce n'est pas seulement l'affaire de PNMLS. Si PNMLS ne fait pas quelque chose, la communauté, n'est-ce pas, en s'appropriant la lutte, pouvait quand même aussi faire quelque chose. D'ailleurs, pour votre gouvernement, n'est-ce pas, on s'en rappellera, il y a cela quelques temps, on avait initié, n'est-ce pas, une rencontre qui avait regroupé quelques leaders de la communauté de la place pour essayer de voir, n'est-ce pas, avec l'hôpital général, avec PNMLS, comment, n'est-ce pas, la communauté de l'UTA pouvait faire quelque chose par rapport à la prise en charge nutritionnelle. Malheureusement, cela est resté, n'est-ce pas, tout ça, donc ça n'a pas tellement évolué.
Donc c'est la communauté de l'UTA, donc les habitants, hein, qui devraient prendre en charge toutes ces personnes vivant avec le VIH-Sida.
C'est la, d'après le docteur, ce n'est pas seulement question de PNMLS, c'est la communauté, c'est la population qui devrait s'en occuper, la communauté, surtout que PNMLS n'est pas encore appuyé au niveau des Bogota pour cette prise en charge.
Nous invitons tous ceux qui nous suivent à réagir, surtout vous, les habitants de Bogota, vous qui nous suivez grâce à la radio communautaire Ruby. Radio installée à Bogota, vous pouvez nous appeler hein, pour envoyer des SMS, des précisions, des questions au 081-070-2050. Nous avons également retenu un problème, hein, celle d'après l'explication du docteur David Ditatala, qui est le coordonnateur du PNMLS du district de Baoulé. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de courant. Alors, comment expliquer qu'un grand établissement sanitaire comme l'hôpital général de référence de Bogota manque de l'électricité alors que la SNEL, d'après ce qu'on a appris, la SNEL est présente dans cette cité?
Oui, pour le problème de l'électricité, laisse-moi d'abord dire, Nicole Ngata, que l'énergie électrique permettrait ou permettra justement à l'hôpital général, c'est-à-dire à la zone de santé, de faire fonctionner l'appareil Diana, qui permet justement aux médecins de bien doser le nombre de globules blancs dans l'organisme humain pour lui permettre de lui administrer les ARV. Mais notez que, pour revenir à votre question, notez que c'est depuis 1995 que la cité de Bogota est dépourvue de l'électricité. La centrale thermique de la SNEL étant tombée en panne lors des récentes guerres de rébellion dans le pays. Néanmoins, l'hôpital général de Bogota a bénéficié en octobre dernier d'un groupe électrogène de 50 kVA, dont du président de la République. Et ce groupe n'a jamais été mis en marche, Nicole Ngata. Suivons les précisions avec Bienvenue à Palata, médecin chef de zone de santé, sur le pourquoi tel que tu me poses la question.
Oui, nous avons un groupe électrogène ici qui nous avons ici de la part du président de la République. Nous ne savons pas utiliser ou rendre opérationnel pour que les cardias et les accessoires.
Depuis que le groupe est ici, pas encore utilisé.
Pas encore utilisé. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de carburant ni de lubrifiant. On ne sait pas utiliser. Tout était promis quand le groupe était donné. Maintenant, nous attendons la réalisation.
Voilà, un groupe de électrogène offert, hein, un don présentiel offert aux habitants, et surtout à l'hôpital de Bota, mais qu'on ne sait pas utiliser hein, jusqu'à ce jour. Ce n'est pas normal, hein, en ce moment soi.
Nikon Gata, voilà, ça fait presque présentement c'est plus de 5 mois que le groupe est là, ça ne fonctionne pas, ça traîne, mais je pense qu'avec nos invités, nous aurons à répondre à toutes ces questions que vous aurez à poser, des questions complémentaires bien sûr. Mais je vais vous signaler quelque chose, Nikon Gata. Nous avons deux invités comme prévu dans notre conducteur, mais il y a encore un troisième invité qui est venu et qui va en tout cas répondre à cette question sur la prise en charge. C'est le docteur Moïse Baboula. Nous avons le docteur Théodore Assani comme premier invité. Il est coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida.
Emmanuel Zambou, oui. Aussi là, hein, c'est l'administrateur du territoire de Bouta. Il est là pour donner des précisions.
Oui, lui va répondre. Zambouis va répondre aux questions liées à la fourniture de l'électricité à l'hôpital. Mais Moïse Magoula, c'est le médecin, le coordonnateur provincial de PNMLS, le programme national multisectoriel. Il est avec moi au studio ici. Je ne sais pas comment vous allez vous départager pour ça.
On va s'arrêter là, nous retenons qu'il y a trois invités, on va voir comment on va évoluer avec les trois. Nous retenons qu'il y a deux problèmes, notamment le problème des antirétroviraux et puis le problème d'eau courant, puisqu'il n'y a pas de courant depuis 1995, vous l'avez dit, 1995, avec ces invités, certainement qu'il y aura des solutions. Alors, tous les habitants de Bouta sont invités à réagir déjà au 081-070-20-50. À bientôt, Anselme.
Merci beaucoup, Nicole Gatou. Je garde.
Thank you.
Mal-aimé, de quoi tu es arrivé? On est certain que nous avons pris des souvenirs à l'étranger.
Oui, là, nous sommes à la fin des années 80, pratiquement, qu'on s'est été à la première sortie de sa carrière en solo pour entamer une carrière dans un groupe qui, juste aujourd'hui, est très bien connu et très bien accepté dans le milieu des Quinois et aussi ailleurs, le quartier d'affaires international.
C'est ça, et c'est tiré de l'album Chacho. Allez, on va tout de suite là recevoir nos invités parce que déjà nous avons en ligne le Dr Moïse Bagboula, le médecin coordonnateur provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Il est bien placé pour dire concrètement quelles sont les solutions aujourd'hui parce que nous apprenons qu'il y a un seul problème là-bas à Bouta. Les personnes vivant avec le sida ne peuvent pas avoir accès à ces antirétroviraux. Pourquoi? Docteur, vous êtes bien placé hein, pour nous donner la réponse.
Oui, monsieur, madame, je pourrais dire que d'abord, il y a un très grand point positif que nous pouvons dire en rapport avec la lutte contre le VIH dans notre province, c'est que cela fait deux ans qu'il n'y avait pas de l'ARV dans cette province. Mais aujourd'hui, avec notre appui, l'appui de PNMLS, les ARV se retrouvent dans tous les districts, les quatre grands districts de notre province, dont Bouta. Mais pour ce qui est de la nutrition, des PVV, effectivement, la mission du PNMLS n'est pas la mission, enfin, surtout pas à partir de cette mission.
Oui, nous voulons bien, mais comment expliquer,
année, je pourrais vous dire, je peux vous dire que pour cette année, dans notre plan d'action, c'est toujours à la prise en charge nutritionnelle de TGV.
Pour cette année.
Plan d'action.
Alors, le problème est résolu, vous pourriez prendre ça à toutes les personnes.
On pourrait trouver une solution, peut-être pas à 100% au vu des besoins qui peuvent être énormes pour cette province. Mais néanmoins, tout de suite, là, il y aura une réunion de la task force où tous les partenaires de lutte contre le VIH-SIDA, dont certains des Nations Unies et autres, auront à voir notre plan d'action et aussi à donner, à nous dire ce qu'ils ont, auront aussi.
De quoi, Moïse Bagboula? S'il vous plaît. Voilà. Nous retenons qu'il y a plus de 40 personnes vivant avec le VIH-SIDA qui sont internées à l'hôpital général de Bouta. À peu près combien? Parce que quand vous dites plus de 40 personnes, il faut être précis, hein.
Oui, s'il y a 40 personnes qui sont...
C'est plus de 40 personnes.
Sont, oui, en fait, depuis que les ARV sont là, et vous savez que les gens ne viennent plus à Kisangani, les gens qui étaient contaminés et restent maintenant chez eux à Bouta. Et alors, nous avons pour le moment un peu plus de PVV à Bouta que tel que par rapport aux années passées.
Vous avez fait une descente à l'hôpital général de référence pour Bouta?
Effectivement, une équipe mixte constituée du PNLS et du PNMLS est arrivée à l'hôpital de Bouta. Il y a effectivement des malades qui sont internés à l'hôpital de Bouta. Aux dernières informations, il y en avait 74 et ces malades, comme le médecin de zone l'a dit, ont besoin d'un appui nutritionnel. Ont besoin d'un appui nutritionnel et nous pensons avec, nous sommes sûrs avec notre budget dans lequel on a bénéficié, dans lequel on a prévu le soutien nutritionnel de PGV.
Un budget estimé à combien, s'il vous plaît? Un budget estimé à combien?
Je crois que le budget, que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pourrais vous le communiquer prochainement.
Dis-moi, c'est une idée, là. Ça fait 10 millions, 20 millions, ça fait combien à peu près de dollars?
pour la prise en charge nutritionnelle de Téléré. Mm. En tout cas, franchement, avec moi, cette place dans la salle, je n'ai pas les pitié, je ne saurais pas vous.
Même l'idée, hein, nous auditeurs, parce que bon, aujourd'hui, vous savez, si on insiste, si nous insistons, c'est parce que dans bien des cas, les personnes vivant avec le VIH-SIDA s'imaginent qu'on détourne les fonds, qui devraient normalement leur arriver directement par votre appui. Alors, c'est toujours bien d'avoir une idée de ce que vous avez comme budget pour qu'ils puissent comprendre ce que vous faites concrètement sur le terrain. Juste des estimations.
Pour la prise en charge des PVV, généralement, nous allouons $30 par PVV pour pouvoir les prendre en charge. Ce que nous avons fait en 2005 ici à Tshangani. Mm. Et le programme est installé ici depuis 2 ans. Mm. Et c'est à peine une année qu'il s'est installé dans tous les autres districts. Et avec la présence des coordinations des districts, nous allons résoudre beaucoup de problèmes qui concernent les PVV. Dans leur prise en charge médicale, nutritionnelle et même psychosociale.
Alors, ça fait pour les 74 PVV qui sont internés à l'hôpital général de référence, ça fait plus ou moins $2,200 hein, qui devraient normalement leur être alloués, hein, grâce à vous, n'est-ce pas?
Oui, nous les faisons selon les procédures telles que la banque le veut à travers des projets. Donc nous attendons des projets projets qui pourraient nous arriver et nous pourrons les financer comme nous finançons tout le monde.
Un jour, hein, ils auront plus de $2,200 par jour.
Avec le PNMLF, ils pourront avoir une solution à ce problème-là.
Le problème est réglé,
alors le problème est réglé. Je lance un appel aux autres partenaires aussi qui luttent contre les accidents parce que les besoins sont énormes.
Nous avons justement en ligne le docteur Théodore Assani, à moi que j'ai des questions privées.
Non, c'est juste une question de précision parce que le docteur vient de parler de 74 PVV et là, dans le point, en fait, nous en sommes, nous a signalé qu'il y a certains malades qui ont atteint un stade de malnutrition très avancé. Est-ce que docteur Moïse Babouna pourrait nous faire une idée sur les noms exact des PVV qui ont atteint un stade de malnutrition très avancé?
Bon, je crois que cette information, vous pourrez l'avoir avec le coordonnateur du PNLS au niveau de Bouddha qui pourrait vous donner.
Nous parlons pas sur l'ancien, là.
Oui, mais quelque part, là, on nous a.
Ou le médecin chef de
oui, mais quelque part, on nous a également signalé que le PNMLS n'a pas suffisamment de moyens, donc il n'a pas de financement, il n'a pas reçu de financement pour la prise en charge nutritionnelle, donc ça arrivait à dire que vous n'avez pas de partenaires avec qui, avec lesquels vous travaillez.
Non, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Je vais vous dire par exemple que le PAM a appuyé au niveau de la ville de Kisangani, des PCV.
Au niveau des Bouta, parce que le problème se pose au niveau des Bouta.
Je vais vous dire sincèrement que Bouta a été une ville ou un district où il n'y avait presque pas de partenaires. C'est à peine une année que la G2Z et le PNML s'est installé là-bas. Mm. Et d'ailleurs, même la province orientale, c'est toujours une des provinces qui a eu le moins de partenaires d'appui financier. Mm. Et notre, c'est pratiquement le PNML et la G2Z qui sont les premiers à être descendus là-bas pour pouvoir.
Et vous êtes là depuis quand?
Appui à cette
vous êtes là depuis quand vous-même?
Nous sommes là depuis une année au niveau des trucs de dans la province, nous sommes là depuis 2 ans, mais du côté des districts de Bas-Velay à Bouta, nous sommes là depuis une année.
Mmh. Alors on va évaluer.
Nous avons déjà mis à la disposition des ARV, nous avons déjà financé plusieurs projets à rapport avec la sensibilisation. Mmh. Et comme un besoin se présente actuellement à rapport avec la nutrition, je demande à la population, aux ONG et autres, de pouvoir soumettre des projets.
Moïse Bagola, juste une dernière précision, vous dites que vous avez un stock d'antirétroviraux, on peut avoir une idée sur ce stock, une tonne, deux tonnes, combien à peu près?
Pardon, je ne sais pas bien suivi.
Donc vous avez dit que vous avez un stock d'antirétroviraux, combien à peu près, on peut avoir des estimations?
Nous avons reçu un stock d'essence d'une petite commande pour 732 PVV. Mais néanmoins, il y a un grand stock qui arrive bientôt.
Combien à peu près
dans la population nationale?
Oui.
toute la commande au niveau du pays. Et je pense que tout sera, vous pouvez entrer en communication avec notre coordonnateur national.
Il n'y avait pas de précision là-dessus, hein, pour une idée précise. On évolue alors.
Pour la nouvelle commande, je n'ai pas la précision.
Ok, alors on va évoluer avec le docteur Théodore Assani qui est aussi en ligne. Hein, lui, il est le coordonnateur provincial du PNLS. J'ai vous avez posé une question précise.
Oui, on peut encore revenir sur la chaîne de réapprovisionnement, disons, en médicaments ou aux ARV. Est-ce qu'au niveau de Bouta, on peut nous rassurer aujourd'hui, docteur, que cette chaîne va bien marcher, il n'y aura pas rupture des stocks dans les jours qui viennent, parce qu'il y a à peine 2 ans que vous êtes sur le terrain en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas, on n'aura pas observé dans les jours qui viennent quelque chose de genre rupture des stocks?
Allô, docteur Théodore Assani, vous êtes en ligne, hein?
Allez, bonjour.
Oui, allez-y.
Nous parlons de...
Oui, donc, je pensais que la question était encore destinée à Dr Wagula, le cycle d'approvisionnement, il faut admettre que c'est un problème particulier qui s'en gagne. Avec l'avènement de l'accès universel au traitement aux antirétroviraux, la province orientale avait en 2005 140 malades, et en 2006, nous avons enregistré 879 malades, parmi lesquels 653 sont encore sous traitement. Mais il faut admettre que la manière dont les antirétroviraux sont arrivés dans la province, ça venait par les partenaires. Donc il n'y avait pas un circuit bien établi pour que nous puissions, à partir de la province, approvisionner les districts, les zones de santé, de nos structures. Comme vous avez suivi le père Moïse, les partenaires eux-mêmes amènent les antirétroviraux directement dans les structures. Et nous avons constaté qu'après la mise en traitement de plusieurs malades, on devrait se rendre compte quelle est la garantie qu'on donne à ces malades-là pour le circuit d'approvisionnement. Mm-hmm. Nous avons posé la question à tous nos partenaires et jusque-là, ce sont des dons qui sont tombés de manière ponctuelle. Et pour le PNLS, par exemple, les médicaments que nous avons menés à bout, c'était pour 140 malades. Mm-hmm. Et cela devrait durer 6 mois. Pour la GTZ avait vraiment stock parce que la GTZ n'est pas aussi détenue de fonds mondial. Alors que la première livraison s'est faite, la GTZ avait toute la garantie chétenue qu'il n'y aurait pas de rupture.
On a comme l'impression que le PNLS n'a pratiquement rien et il compte que sur les partenaires.
Oui, nous sommes le programme national de lutte contre le sida. En principe, nous sommes le ministère de la Santé. Nous devons plus compter d'abord sur le gouvernement et en plus de ça compter sur le partenaire parce que la lutte contre
le sida. Le gouvernement n'a rien disponibilisé pour vous.
En tout cas, nous osons croire jusqu'à ce jour, la centrale de distribution de médicaments qui doit être sous l'égide du gouvernement n'a pas encore reçu des antirétroviraux par une voie vraiment officielle.
Alors, comment comptez-vous alors résoudre le problème, disons, la vraie problématique de la prise en charge nutritionnelle des PVV au niveau des boutards? Parce que là, vous n'avez pas de moyens de votre politique, alors comment allez-vous vous y prendre?
Nous devons admettre que le sida est une maladie comme les autres. Et malheureusement, c'est une maladie qui a aussi une dimension socio-économique qui empauvrit. Mais nous devons dire que tous les malades ne sont pas pris en charge nutritionnellement au niveau des hôpitaux. Et vous allez remarquer dans tous les hôpitaux de la République, ce n'est pas l'hôpital qui prend ou il est en charge encore les malades. Oui. Nous devons dire que c'est un problème sérieux par rapport à ces malades-là qui arrivent dans les hôpitaux dans un état socio-économiquement déjà
altéré.
Nous devons les considérer comme des indigents.
Oui, mais docteur Théodore Assani, vous savez, on vous coupe un peu la parole, hein, si vous permettez. Les auditeurs affirment beaucoup de choses aussi. Hein. Ils disent, oui. Par exemple, à quand la fin de l'amateurisme dont souffre le programme national multisectoriel de lutte contre le sida et vous-même aussi à travers votre programme. Parce qu'ils nous affirment qu'ici, qu'il n'y a pas de transport, les bureaux sont sous-équipés, il n'y a pas d'ordinateur. On ne sent pas l'impact de votre programme sur le terrain à Bouta. Alors finalement, ils ont l'impression que vous ne faites rien. Il n'y a que le courage du docteur David Bokala que eux estiment énormément.
Oui, nous pensons que nous sommes présents à Bouta en envoyant même la liste
nous avons dirigé la liste vers Bouta parce que nous avons vu qu'il y avait un centre de traitement à Kisangani qui recevait beaucoup de malades qui provenaient de Bouta. Et quand nous avons fait la planification avec la GTZ, c'est nous, le programme national de lutte contre le sida, qui avait orienté la GTZ pour en être implanté à Bouta parce qu'il avait plusieurs malades.
Est-ce que vous êtes organisé? Nous avons retenu que par rapport aux années antérieures, il y a un nombre à tripler, le nombre de personnes vivant avec le sida a triplé. Ça veut dire que il y a comme un problème en ce qui concerne la prise en charge de ces personnes.
Oui, nous disons qu'il y a un problème sérieux pour la prise en charge. Parce que la prise en charge des personnes vivant avec les nouvelles sida au stade de la maladie, ce n'est pas seulement la prise en charge médicale. C'est également la prise en charge nutritionnelle.
Mais
c'est la prise en charge psychosociale.
Comment vous faites pour cela? Vous êtes là depuis une année, vous avez quand même évolué. Mais c'est comme si vous ne faites rien en ce qui concerne la prise en charge nutritionnelle.
Oui, je pense que le programme doit être pris de manière holistique, mais ce n'est pas un programme de lutte contre une maladie qui peut donner la nourriture également aux malades.
Mais c'est à vous de vous donner des pour avoir des partenaires. Vous êtes d'accord avec nous?
Oui. Oui, c'est ce que nous disons. Le fait qui est déjà fait là, c'est le financement des activités génératrices de recettes dans le groupe de personnes vivant avec le VIH-SIDA. Nous avons commencé une expérience à Kisangani sur place avec Femme Plus qui octroie au moins $150 à des PVV. Une fois que PVV choisit.
Monsieur Théodore, il vous faut combien pour résoudre ce problème de la prise en charge nutritionnelle des PVV?
Sinon, à quoi bon leur distribuer des antirétroviraux?
Oui, nous disons
que les partenaires qui vivent en ce moment, ils pourront déjà évaluer, il faut combien, concrètement?
Oui, nous disons que c'est un traitement d'abord à vie. Et si nous pouvons dire, il nous faut combien, donc c'est pour toute la vie qu'on doit nourrir quelqu'un. Mais si nous venons pour une année de manière opérationnelle, donc de façon que si on remettait à chaque patient au moins $3 par jour, pour sa survie, comme ils sont 74 là, ça fera à peu près 210 dollars qu'on pouvait remettre à cet hôpital là pour qu'on organise la prise en charge nutritionnelle de cette PVV. Donc on ne va pas résoudre les problèmes de manière isolée. Il faudrait qu'on puisse envisager comment prendre en charge tous les malades vivant avec le VIH-SIDA au stade avancé et indigent. Parce que je peux vous donner l'expérience qu'il y a des malades aussi vivant avec le VIH-SIDA qui sont traités à Isiro par exemple et qui sont encore économiquement forts, qui peuvent supporter leur nutrition.
Alors, on a retenu que vous allez continuer à faire des projets afin d'améliorer votre participation à Bouta. Nous avons un autre invité en ligne qu'on va recevoir, c'est Emmanuel Zambinissi, administrateur du territoire de Bouta. Nous retenons que l'hôpital général de référence n'a pas de courant. Alors, vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème?
En fait, madame, merci beaucoup pour la question. J'ai dit qu'on avait un groupe, les projets qui a été pillé par des différentes rébellions qui ont été perpétrées dans le coin. Ici, le président de la République a pu songer à ces territoires qui étaient vraiment marginalisés. Il nous a remis un groupe électrogène à capacité en somme de 50 travailleurs. En fait, ce qui pose un certain nombre de problèmes, à ce que cet hôpital soit électrifié, ce sont les câbles et les conducteurs qui ne sont pas là, puisque ceux qui sont venus nous déposer sur ce groupe électrogène, nous ont promis que même mal l'autre, tout les câbles vont nous parvenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, et nous ne sommes pas possédés à de ces câbles-là.
C'est ça qu'on a. Qu'est-ce que vous faites pour activer les choses en tant qu'administrateur du territoire de Bouta?
Les démarches autour de ça ont été déjà dans l'entreprise. Il y a Mangar qui est déjà le fait d'ordre sur ce point-là. Et puis, il y a encore le fait d'ordre, le groupe de jeunes gens ou le fait d'ordre des contingents qui se font autour de ça. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, même si on n'a fait plus rien, ben, nous demandons toujours à ce que ces câbles qui nous ont été promis nous arrivent.
Mais à quand l'arrivée de ces câbles? C'est ça la grande question. Ça fait déjà plus de 3 mois. Et ça dure, hein?
Ah oui, ça permet, en fait, lorsqu'on est promis, on s'y attend, c'est ça le problème. Mais en fait, on a vu que le temps est amplement faisant de passer. C'est aussi qu'on est en train de nous démêler pour qu'on ait un peu d'autres.
Vous êtes en train de vous démêler et vous allez acheter vous-même ces câbles?
En fait, c'est ça, mais dans les procédures de l'intérieur, c'est ainsi. Nous sommes en train de nous démêler pour avoir ces câbles-là. À l'hôpital et ont été pillés par l'armée pour bien sûr nous
faire monsieur l'administrateur, vous avez le groupe électrogène depuis 95, donc si on fait rapidement le calcul, c'est pratiquement 10 ans que ce groupe ne fonctionne même pas, et aujourd'hui vous parlez de problèmes de câble. Moi je nous nous posons sans doute la question de savoir est-ce que l'administration du territoire n'a pas un peu d'argent pour pouvoir peut-être résoudre le problème. Il fallait seulement attendre une dizaine d'années pour peut-être qu'on aurait demandé encore ou poser la question au gouvernement.
Oui, merci beaucoup. Avec les taxes des EAD, en fait, nous sommes en difficulté de faire face à cette grande situation. Vous voyez que les câbles que nous avons, pratiquement, nous devons voir plus de 2000 mètres. Plus de 2000 mètres, c'est pas une mince affaire.
Oui, 2000 mètres, ça fait combien?
Ça, c'est tous les théories du président qui évaluent ces montants-là.
Vous avez déjà fait, vous avez déjà introduit votre requête auprès du gouvernement et vous attendez une réponse.
Oui, en fait, il y a encore l'obstacle autour de ça.
Lequel?
Si les gens avec nous, si ça fait encore, on a fait dans cet obstacle. Sinon, on allait déjà avoir ces câbles. L'année passée, on n'avait pas de problème comme c'est le vrai.
Oui, mais là, c'est pas repoussé, hein. On vous donne la possibilité de
parce que les partenaires qui vous suivent en ce moment, ils peuvent peut-être intervenir. C'est pourquoi nous voulons savoir ça coûte combien. Comme ça, ceux qui nous suivent, ils peuvent peut-être intervenir.
Oui, en fait, le coût de ces câbles pouvait varier à. Ce sont les intéressés, en fait, qui peuvent facilement définir ce coup-là.
Vous avez des techniciens, disons, à vos côtés. C'est vraiment dommage, monsieur l'administrateur, que nous n'ayons pas le coup. Peut-être qu'il y a des partenaires qui pourraient vous aider. Mais nous avons compris qu'il y a un problème sérieux parce que la machine, l'appareil derrière là, ne peut pas fonctionner. Donc, en plus, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est un problème sérieux.
Oui, en fait, c'est ça, le problème est sérieux, le problème est sérieux. Et là, c'est pose un peu sur les câbles, on n'en a pas.
Sinon, le problème est sérieux, mais vous ne pouvez pas donner le montant pour qu'on puisse trouver une solution. Hein. C'est vraiment dommage, madame le ici. Nous retournons aux administrateurs du territoire de Bouta. Nous sommes malheureusement obligés de couper l'entretien, hein, parce qu'on a débordé sur le temps. Merci d'avoir été notre invité. Hein.
Thank you.